partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Un billet du Pacifique Sud, un billet d'Australie. Les Britanniques ont fait beaucoup de sottises dans leur colonisation du continent austral, heureusement tardive. La chance de l'île continent est d'avoir dérivé très loin et d'être restée aussi isolée si longtemps. Les Européens n'ont pris conscience que très lentement de l'immensité du lieu, de son hostilité et de ses particularités. Ils s'employèrent souvent à exterminer tout ce qui entravait leurs entreprises, les kangourous et surtout les habitants originaires, les aborigènes. Partir pour l'Australie fut pendant 150 ans soit la marque de l'infamie, soit la décision de ceux qui ne pouvaient rien espérer de l'Angleterre, soit la punition des fils de famille indisciplinés, soit un nouveau Far West pour aventuriers et chercheurs d'or. Partir pour l'Australie, en revenir, pouvait prendre des mois, voire des années, et on n'était jamais certain d'y arriver. Le bateau fut l'unique moyen de communication jusqu'au premier tiers du XXe siècle, pratiquement jusqu'à la guerre de 14, dans des conditions souvent incertaines. Les naufrages le long des côtes, notamment du sud, pour arriver à Melbourne ou à Adélaïde, furent extrêmement nombreux. L'avion a tout changé. Il y eut d'abord les pionniers, lorsque l'avion, le plus souvent un biplan, restait l'apanage de riches sportifs. Lorsque l'Empire couvrait le monde, le jeu consistait à préparer des étapes le long d'un parcours, passant par Malte, la Crète, l'Égypte ou l'Irak, l'Inde, la Malaisie, les îles de la périlleuse mer d'Arafura et enfin Darwin, tout au nord de l'Australie. C'est ainsi que sont nés les grands aéroports que nous connaissons maintenant. Quelques bidons de carburant, un peu d'huile et d'eau et 300 mètres de prairies ou de plateaux point trop caillouteux suffisaient à l'aventure. Glenelg, qui est la station balnéaire d'Adélaïde, garde le souvenir de Jimmy Melrose, un héros national qui fut le premier à faire le voyage à l'envers, Australie-Londres, c'est-à-dire avec le vent sur le nez, en 1934, et il fit cette performance en 8 jours et 9 heures. Et puis il y eut Lord Francis Chichester, lequel, avant d'être un intrépide navigateur, modèle et idole d'Éric Tabarly, s'illustra comme aviateur en accomplissant un Londres-Australie en un temps record en 1929. C'est lui qui appliqua le premier les principes de la navigation maritime à la navigation aérienne. On peut aussi signaler le capitaine Harry Butler, autre héros local, lequel en 1919, avec son monoplan Bristol Red Devil, Diable Rouge, établit le premier courrier postal entre la capitale de la péninsule de York, Miniatone, lieu de fabuleuses mines de cuivre, découverte en 1859, et Adélaïde. Mais ce qui changea tout fut la Seconde Guerre mondiale. Les avions s'emparèrent de l'océan Pacifique, le vainquirent, en partie grâce au porte-avions, cette fausse île de métal qui permet de ravitailler. La reconquête de l'océan, île par île, visant le sud du Japon, se fit à partir de l'Australie, base arrière des Alliés, à partir d'Alice Springs et de Darwin, laquelle connut 71 raids aériens japonais. Hiroshima et Nagasaki furent les aériens point final de la guerre dans le Pacifique. On inventa pour ces expéditions aériennes d'un genre nouveau la notion de point de non-retour, la distance maxima où l'on peut voler en ayant assez de carburant pour revenir. À partir de là, l'avion désenclava l'île continent et fit progressivement du Pacifique une nouvelle Méditerranée. Les pistes et les tours de contrôle existaient, les pilotes étaient démobilisés, et les premières lignes régulières civiles furent montées avec d'anciens avions militaires réaménagés. non seulement pour des passagers, mais surtout pour les marchandises, le fret, et aussi le bétail et la laine. Avec quelque cynisme, les Australiens avouent que la Seconde Guerre mondiale accéléra leur histoire d'au moins 50 ans et fut une sorte de chance pour eux, même si le prix humain à payer fut extrêmement lourd. Les lignes intérieures en Australie sont nombreuses, les avions privés aussi. Les distances sont tellement immenses. Il y a encore beaucoup d'avions à hélices, de beaux Fokker bien entretenus, de gentils Cessna où sont graves. Mais le passage de l'hélice au réacteur a permis de couvrir sans escale des trajets de plus en plus longs. À la fin des années 70, le premier Los Angeles-Sydney sans escale fut un grand événement. Maintenant, cela paraît banal, tout comme les liaisons directes avec toute l'Asie Pacifique. La compagnie nationale, la Qantas, veille jalousement sur son autonomie, ses finances, et ne veut en aucun cas être absorbée par une quelconque alliance avec des compagnies plus puissantes qu'elle-même. Qui se souvient que Qantas signifie Queensland and Northern Territory Aerial Service et qu'elle commença fort modestement son trafic intérieur en 1920 avec deux incertains coucous juste assez costauds pour embarquer quelques sacs de courrier. Elle s'est longtemps targuée d'être la meilleure compagnie du monde, ce qui n'est pas loin d'être vrai, et elle a affronté les premiers Jeux australiens, ceux de Melbourne, puis l'affluence des Jeux olympiques de Sydney avec maestria. La crise actuelle qui voit son trafic et ses bénéfices baisser l'inquiète, de même que le cours du kérosène. Si l'avion venait à ne plus remplir son rôle, l'Australie retournerait peut-être à l'obscurité de l'isolement. À ce développement général, on peut ajouter deux précisions. La première concernant Lord Francis Chichester, 1901-1972. Il est né dans le Devon, mais il était établi en Nouvelle-Zélande. C'est un aviateur émérite qui eut d'ailleurs de nombreux accidents et un navigateur remarquable. Il fut conseiller technique pour la firme de Havilland. Tous ses avions et tous ses bateaux s'appelèrent Gypsy Moss avec des numéros. Il créa la course en solitaire dans l'Atlantique. Il relia le premier, la Tasmanie à Melbourne en avion et effectua également la première liaison aérienne entre l'Australie et le Japon. Il accomplit un dernier tour du monde en bateau à l'âge de 66 ans. En fait, il aurait souhaité mourir en mer, mais il n'y a pas réussi. Il a écrit un très joli livre de souvenirs dont le titre est le premier vers d'un poème extrêmement connu en Angleterre, « The Lonely Sea and the Sky ». Certains d'entre vous savent sûrement ce poème « I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky ». Ce livre date de 1964 et il y a une édition française. Quant à Jimmy Melrose, outre son exploit Australie-Angleterre, il a accompli le premier tour de l'Australie en avion pendant l'été 1934, en 5 jours et 10 heures. Pour lui, ce fut un entraînement en vue du périple vers l'Angleterre. À 19 ans, Jimmy Melrose fut le plus jeune pilote licencié du Royal Aero Club d'Australie. Après son exploit et son arrivée triomphale à l'aéroport britannique de Croydon, il créa les premières lignes régulières entre la Tasmanie et Melbourne, puis la ligne Melbourne-Darwin, étape essentielle du désenclavement du continent. Il se tua en 1936 sur panne mécanique dans des circonstances qui sont restées peu élucidées.